Radio Spirale.
Près de 70 ans après leur apparition brutale dans notre histoire, les termes « holocauste » et « génocide » sont encore chargés de connotations. Les politicologues Jocelyn McClure et Joseph-Yvon Thériault en débattent, ainsi que des changements que l'événement de l'Holocauste a entraînés au niveau des grandes institutions internationales.
Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cette causerie à la librairie Olivieri. Mon nom est Sabrina Moisan, je suis la coordonnatrice éducation au Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal. Elle nous fait plaisir de vous recevoir ce soir en partenariat avec la librairie. L'événement de ce soir a lieu dans le cadre de la série éducative sur l'Holocauste qui est organisée chaque année par le Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal. Cette année, la série a lieu du 26 octobre au 6 novembre et ça comprend en fait 10 jours de témoignages, d'événements, de discussions, de conférences, d'ateliers et de films qui ont lieu un peu partout sur le territoire montréalais. L'objectif est d'aller voir le grand public. Le Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal a pour mandat d'informer et de sensibiliser les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence. L'événement de ce soir nous amène un peu plus loin dans notre réflexion, c'est-à-dire et dans le temps présent. Donc, le titre est « Les relations majorité-minorité, quel legs de l'Holocauste? » Une question qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant dans la grande discussion que la société québécoise mène depuis quelques années déjà cette question des relations majorité-minorité. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir trois professeurs, Jocelyn McClure, Joseph-Yvon Thériault et Antonia Maioni, qui va agir comme animatrice. Je vais la présenter rapidement et elle vous présentera les deux intervenants. Donc, Antonia Maioni est politologue, elle est professeure au département de sciences politiques de McGill. Elle travaille principalement sur le fédéralisme et l'élaboration des politiques sociales, de même que sur l'État-providence au Canada. Elle est montréalaise multilingue. Elle fait ses études à l'Université Laval avant d'obtenir une maîtrise à la Norman Patterson School of International Affairs à Carleton et un doctorat à l'Université Northwestern. Elle a occupé des postes de professeur invité à Harvard et à l'Université Duke aux États-Unis, de même qu'à l'Institut universitaire européen en Italie. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Sabrina. Bonsoir à tous. Merci beaucoup aussi pour l'invitation de faire partie de votre série éducative sur l'Holocauste. Et aussi, je voulais juste rappeler que moi-même, je suis contente d'avoir pris connaissance de ce musée d'histoire parce que c'est un musée qui a une mission unique d'informer et sensibiliser nous tous sur l'Holocauste et encore de façon plus large sur l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence. Et ce soir, comme Sabrina nous a rappelé, le thème retenu est une question beaucoup plus large sur les relations majorité-minorité et quel legs de l'Holocauste on peut avoir. Et le but, évidemment, ici, c'est de discuter, d'en parler, de partager nos réflexions sur les relations qu'entretient la majorité d'une population, avec les minorités qui le composent, évidemment dans le contexte de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire le Québec. Si on part avec l'idée de l'Holocauste, c'est pas parce que l'Holocauste peut tout expliquer, mais l'événement a quand même eu un impact important sur cette question de relation majorité-minorité, et c'est pour ça qu'on espère par cette discussion, de contribuer à la réflexion ambiante par rapport aux relations entre les groupes sociaux au Québec et même ailleurs dans le monde. Et donc, on aimerait que ça porte sur l'influence qu'a eu l'Holocauste, sur la manière dont les sociétés occidentales, dont la nôtre, ont pensé les relations minorité-majorité. Évidemment, on prend l'Holocauste comme point de départ et on veut non seulement s'attarder sur quelques leçons de l'Holocauste, mais pour démontrer encore là plus largement son impact sur plusieurs thèmes et ces trois thèmes porteurs qu'on a retenus ce soir. D'abord, l'influence de l'Holocauste sur le langage courant, donc notre vocabulaire. L'influence sur la manière dont on pense les relations majorité-minorité. Et finalement, sur les différents modèles de gestion de pluralisme qu'on peut entreprendre ou en parler. Et je me suis fait rappeler, donc je vous le rappelle, l'auditoire et nos conférenciers, que nous ne voulons pas provoquer un débat stérile, mais plutôt une réflexion et une discussion à plusieurs voix. Pour ce faire, on est très contents ce soir d'accueillir deux penseurs renommés québécois qui vont nous exposer leur point de vue et leurs idées sur ces thèmes. Je vais les présenter et ensuite on va parler des règles du jeu de ce fameux débat. Alors d'abord, ce sera Jocelyn McClure, qui est professeur agrégé à la Faculté de philosophie de l'Université Laval. Le professeur McClure tient un doctorat de l'Université de Southampton, au Royaume-Uni. Et vous avez peut-être eu connaissance de ses travaux parce qu'il a œuvré comme analyste expert et rédacteur pour la commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d'accommodement de la diversité culturelle et religieuse. Il est aussi enseignant et auteur de plusieurs œuvres, entre autres « La laïcité et liberté de conscience » avec Charles Taylor qui vient de paraître l'an dernier, et aussi « Les récits identitaires, le Québec à l'épreuve du pluralisme » qui est paru en l'an 2000. Suivra ensuite Joseph-Yvon Thériault, qui est depuis 2008 professeur titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Avant ça, le professeur Thériault a été longtemps professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université d'Ottawa, où il était entre autres directeur fondateur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, et titulaire de la chaire de recherche Identité et francophonie. Alors, nous avons avec nous deux penseurs, deux experts qui ont longuement réfléchi sur la question des relations entre majorité et minorité, et c'est pour ça qu'on est vraiment on devrait être très attentifs à comment ils peuvent nous rappeler le thème de notre causerie ce soir. Les règles du jeu seront les suivantes. On va demander d'abord à le professeur McClure d'aborder les trois questions que j'ai soulevées. Ensuite, le professeur Thériault va donner ses états sur la question plus large et le thème de ce soir. Suivra une causerie entre les deux et ensuite, on va ouvrir les questions de la salle. Alors, merci beaucoup, professeur McClure.
Merci beaucoup, Antonia. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je n'ai pas préparé une présentation en tant que telle. Ce que je vais faire, c'est donc vous offrir un certain nombre de remarques inspirées des trois questions qui nous ont été posées en guise de préparation. Donc, la première question a trait au vocabulaire. Donc, on cherche à savoir quel est l'héritage concret de l'usage, au fond, régulier, récurrent de certains thèmes associés donc à l'Holocauste, que ce soit tout ce qui concerne le régime nazi, l'antisémitisme, le fascisme, etc., entre autres quand c'est utilisé pour calomnier des individus ou des groupes. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse du discours social, mais deux remarques sur cette question-là. Donc, à plusieurs égards, ce type de stratégie rhétorique donc, a des effets néfastes donc, sur l'état du discours social. Deux points. Premier point, une des conséquences de l'usage répété de ces termes, c'est évidemment de les banaliser. au fond, de les vider de leur sens, alors qu'il s'agit de termes dont on doit impérativement retenir le sens. Et puis s'assurer que le sens de termes comme le nazisme ou l'holocauste ou le fascisme, donc, que le sens donc, soit conservé et surtout transmis aux générations futures. Entre autres, donc, si on a toujours espoir qu'il puisse y avoir quelque chose comme un progrès moral dans l'humanité, que les générations suivantes ne fassent pas les mêmes erreurs morales que les générations précédentes. Donc, c'est important de conserver le sens de ces termes-là. Puis, c'est évidemment pas possible si on les emploie à tort et à travers, de façon abusive et récurrente, les termes deviennent galvaudés. Entre autres, de façon spécifique, je pense qu'évidemment, le terme même « holocauste », c'est un de ces termes qui devrait être absolument, au fond, utilisé de façon spécifique et, pour se référer donc exclusivement au régime nazi et au camp de concentration. Je pense que c'est nécessaire donc, d'utiliser ce terme-là de façon donc, très spécifique. Ce n'est pas nécessairement le cas avec d'autres termes comme « génocide », par exemple. Donc, il peut y avoir d'autres tentatives de génocide dans l'histoire. Donc, il faut prendre les termes un à un et faire cette analyse-là. Mais il peut avoir donc cette conséquence négative-là. La deuxième conséquence négative, donc, est reliée à ce que les Grecs de l'Antiquité appelaient la sophistique, hein? Donc, l'utilisation de stratégies rhétoriques qui sont pas gouvernées par la raison ou par la probité ou par la rigueur intellectuelle, mais qui cherchent surtout donc à faire valoir certaines positions coûte que coûte, à disqualifier l'adversaire, à discréditer certaines personnes et ainsi de suite. Donc, très souvent, lorsqu'on utilise ces termes-là, c'est dans ce but-là. Donc, par exemple, si on considère que toute position nationaliste, peu importe sa teneur, donc est nécessairement fasciste, ben ça, c'est une des façons de disqualifier donc, tout discours nationaliste, alors qu'il y a plusieurs types de discours nationalistes, certains qui sont carrément illégitimes, d'autres qui sont nettement plus légitimes. Même chose si on considère que toute critique argumentée des positions politiques de l'État d'Israël. Donc, si on considère que là, il y a antisémitisme, mais encore là, c'est une façon de disqualifier les positions plutôt que d'en débattre de façon rationnelle et rigoureuse. Donc, c'est des exemples de conséquences négatives. Très souvent, lorsqu'on utilise ces épithètes, on s'en sert comme des attaques ad hominem. On attaque les personnes ou les groupes plutôt que de discuter donc, de façon logique et rationnelle de la teneur de leurs idées. Puis ça, je pense qu'une des leçons, là, parce qu'on cherche aussi à réfléchir aux leçons, une des leçons qu'on peut retenir aussi, c'est que bon, c'est un phénomène auquel on est convié donc à tout ce qui a trait donc au vocabulaire associé à l'Holocauste, mais c'est aussi un procédé rhétorique qui concerne plusieurs autres termes, que ça soit par exemple parfois on va dire juste utiliser le terme conservateur ou multiculturaliste ou néolibéral ou je sais pas socialiste aux États-Unis, juste l'utilisation de ces termes-là, donc souvent ça serait suffisant pour disqualifier une position. Donc ça fait partie aussi des conséquences négatives. Évidemment, ça veut pas dire, à mon avis, qu'on doit se priver de l'utilisation donc du vocabulaire qui entoure donc l'Holocauste. Par exemple, le concept de fascisme, on peut se demander est-ce que c'est un concept qu'on peut encore utiliser aujourd'hui pour décrire des régimes politiques. Puis là, je pense qu'on peut faire une analyse assez rationnelle de ça, puis voir s'il y a un régime donné, donc quelles sont les priorités, les propriétés qu'un régime, par exemple, partage avec le régime de Mussolini. Ou on peut se demander est-ce que le franquisme, par exemple, est-ce que c'est un type de régime politique qui était suffisamment semblable au nazisme ou au fascisme italien pour qu'on considère ce régime-là comme un régime fasciste. Je pense que on peut encore utiliser ces termes lorsque c'est fait de cette façon-là, mais bon, en gardant en tête donc les conséquences négatives que ça peut avoir. La deuxième série de questions concernait donc l'héritage de l'Holocauste sur la transformation des idées, donc tout ce qui concerne la réflexion sur les droits humains, la question de l'intervention humanitaire, puis comment ces idées ont amené les nations à revoir leur manière de gérer la diversité au sein de leur société. Donc, quelques remarques sur cette série de questions. Je pense que sur le plan de la transformation des idées, donc le Holocauste, on peut évidemment l'avoir comme une espèce d'électrochoc moral. Si Adorno donc a dit que on pouvait plus faire de la poésie après Auschwitz, puis on comprend pourquoi il a dit ça. Il faut quand même reconnaître que c'est souvent dans les catastrophes au fond qu'on trouve une impulsion à la philosophie morale et politique. Donc il y a tout un leg, évidemment pour des causes tragiques, mais tout un essor de la philosophie morale et politique suite à l'Holocauste. Donc non seulement dans le registre philosophique, mais aussi sur le plan des transformations institutionnelles au sein des sociétés occidentales. Je pense que c'est pas exagéré de dire que l'Holocauste donc a été à l'origine d'une transformation importante donc du contexte moral des sociétés occidentales, entre autres par rapport à tout ce qui concerne la réactivation puis l'institutionnalisation de certains principes moraux hérités du siècle des Lumières, des principes dont l'autorité donc a été affirmée de façon très ferme. Je pense évidemment donc à l'égal, au principe de l'égale dignité des personnes qui est inscrit dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'un point de vue philosophique, donc dans l'après-guerre, un des phénomènes un des mouvements auxquels on était conviés, donc c'est celui de l'essor de ce qu'on appelle souvent l'individualisme moral. Donc, ce que c'est l'individualisme moral, c'est cette idée que la personne et l'unité morale, puis la source de revendication morale prépondérante ou ultime, par rapport, entre autres, par exemple, à la collectivité ou à la religion, ou ainsi de suite. Donc, l'unité morale la plus pertinente, puis celle qui va avoir le plus de poids, va être la personne et non pas la collectivité ou le pouvoir politique, les autorités religieuses, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle en philosophie morale et politique l'individualisme moral. Puis ça, il y a un essor fulgurant de cette position-là, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque le philosophe américain John Rawls, dans la fin des années 50, début des années 60, lorsqu'il commençait donc à élaborer sa fameuse théorie de la justice qui a été publiée en 1971, Rawls nous dit dans sa théorie de la justice, qui est une théorie libérale donc de la justice, il nous dit qu'un des postulats de sa réflexion, ça va être le principe qu'il appelle donc de l'inviolabilité de la personne humaine, c'est-à-dire donc une personne à laquelle il faut reconnaître un certain ensemble de droits fondamentaux. Pour Rawls, donc ça c'est Rawls passe beaucoup de temps à justifier dans le détail toutes ses positions, mais le principe de l'inviolabilité c'est littéralement un postulat, ça va être une vérité évidente qui va servir donc à construire sa théorie. Donc, ça, c'est sur le plan philosophique. Puis, dans les sociétés occidentales, on a connu donc l'institutionnalisation très forte d'une culture des droits et libertés, donc qu'on connaît aujourd'hui, dont le Québec a pas été du tout absent de l'institutionnalisation de cette culture-là. On oublie souvent que le Québec s'est doté donc d'une charte des droits et libertés en 75, donc 7 ans avant l'adoption de la charte canadienne des droits et libertés. Un des effets, d'un point de vue plus institutionnel, cette fois-là, un des effets les plus notables de cette transformation morale dont je parlais, donc c'est donc oui, l'institutionnalisation des chartes des droits et libertés, tous ces pays qui se dotent de chartes de droits et libertés, mais de façon encore plus pratique, donc toute au fond, l'espèce de généralisation de la pratique très américaine du contrôle de constitutionnalité des lois, hein, le judicial review, donc cette idée que les citoyens doivent pouvoir contester devant les tribunaux des lois qui ont un pedigree démocratique, là, qui ont été adoptées de façon démocratique par des élus, que l'on puisse contester la constitutionnalité de ces lois-là. Donc, c'est une pratique très américaine, mais qui s'est étendue à d'autres pays, dont le Canada en 82. Maintenant, les pays européens, donc membres de l'Union européenne, les citoyens de ces pays-là peuvent contester les décisions de leurs propres tribunaux devant la Cour européenne des droits de la personne. Même l'Angleterre, donc le bastion du common law, a intégré la judicial review dans son propre système juridique dernièrement. Donc, encore là, un héritage institutionnel très, très fort, très marquant, qui montre que le pouvoir politique va avoir des limites. Puis une de ces limites-là, c'est qu'il doit respecter donc les droits et libertés fondamentaux. Il y avait une question sur ce qui concerne l'intervention humanitaire, donc plus dans le du côté donc de l'éthique des relations internationales. Un commentaire là-dessus sur le plan du leg donc de l'Holocauste. Ben, je pense que dans la modernité politique, au fond, on constate une tension entre deux grands principes sur le plan de l'éthique des relations internationales. Ces deux principes étant, d'une part, la protection des droits et libertés individuelles, donc des citoyens dans différents pays, mais d'autre part, le principe donc clé de la souveraineté populaire ou de la souveraineté, en fait, de la souveraineté des États. Donc, ce grand principe de la souveraineté. Chaque État, donc, va être souverain au sein donc des frontières reconnues. Donc, un grand principe de la modernité politique qui est au cœur du traité de la paix de Westphalie de 1648, qui a permis de pacifier l'Europe. Puis, donc, très souvent, il peut y avoir tension entre ces deux principes lorsque, par exemple, une minorité va être opprimée au sein donc, d'un pays, dans un pays souverain par la majorité. Donc, quel principe va avoir préséance? Est-ce que c'est le respect de la souveraineté ou est-ce que ça va plutôt être la protection des droits individuels? Je pense que un des legs de l'Holocauste, ça a été de renforcer le pôle droits humains de cette équation-là. La tension perdure, mais je pense que maintenant, on accorde plus de poids à la protection donc, des minorités au sein de différents pays. Évidemment, il y a eu plusieurs échecs de ce principe-là. On pense aux Balkans, qu'on pense au Rwanda, mais tout ce qu'on appelle maintenant le principe de la responsabilité de protéger, un principe, je pense, qui était à l'œuvre, Antonia me corrigera, mais qui était à l'œuvre, par exemple, dans l'intervention en Libye dernièrement. Donc, cette idée que lorsque des minorités sont opprimées donc sévèrement au sein d'un pays, donc que le droit international puisse mobiliser ce principe de la responsabilité de protéger des populations. Mais il me semble que ça, d'une façon ou d'une autre, on peut relier ça à l'héritage de l'Holocauste. Dernier point. Donc, la troisième série de questions portait sur les différents modèles de gestion de la diversité. Ça, je vais être bref là-dessus parce que je soupçonne que ça va être un de nos thèmes de discussion entre Joseph Yvon et moi. Mais je pense que... Donc là, j'ai parlé des legs donc, de l'Holocauste sur le plan de la philosophie morale et politique et des institutions. Mais je pense qu'un des mouvements qu'on a connus qui n'est pas directement lié à l'Holocauste, au fond, c'est celui qui concerne la gestion, disons, pluraliste de la diversité au sein des États démocratiques. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se fonde sur une philosophie libérale, disons, standard de protection des droits et libertés individuelles fondamentales, l'individualisme moral dont je parlais tout à l'heure, on n'arrive pas nécessairement à des modèles de gestion de la diversité qui sont pluralistes ou qui ressemblent donc au multiculturalisme ou à l'interculturalisme, parce que le libéralisme, donc, évidemment, va s'opposer à toute forme de discrimination explicite, directe, toute forme d'exclusion. Donc, qui cible des groupes particuliers, mais le libéralisme standard n'est pas incompatible avec une espèce d'assimilation en douce des populations minoritaires, parce que c'est vraiment des droits individuels qui sont ciblés. Donc, le libéralisme, par exemple, on peut être dans un régime libéral où les nations minoritaires n'auront pas de droits politiques. Je veux dire, c'est pas inconcevable d'un point de vue conceptuel. Un des meilleurs exemples de ça ici au Canada, c'est le libéralisme de Trudeau. Dans son application, entre autres, au peuple autochtone. Donc, pour Trudeau, qui était philosophiquement un libéral, un égalitariste, donc qui considérait jusqu'à la fin des années 60 que la façon de traiter de façon juste les Autochtones du Canada, c'était de faire en sorte qu'ils puissent s'assimiler, au fond, à la société majoritaire, qu'ils puissent jouir exactement des mêmes droits et des mêmes opportunités socio-économiques que les autres Canadiens. Donc, il y avait une philosophie proprement libérale et égalitariste, là, mais qui était quand même compatible avec la négation des droits collectifs des peuples autochtones. Donc, le libéralisme standard ne nous mène pas nécessairement à une politique de reconnaissance. On appelle maintenant la politique de reconnaissance, donc, des droits des minorités. Puis ça, c'est un mouvement donc, qu'on a connu davantage à partir des années 70, où on a tenté donc de modifier le libéralisme pour faire en sorte qu'il puisse reconnaître aussi les minorités culturelles et religieuses. Tout ce qui relève de l'accommodement raisonnable aussi découle de cette de ce mouvement, donc d'une politique de la reconnaissance. Puis tout à l'heure, donc, on pourra parler des différents modèles, que ce soit le multiculturalisme, différentes formes de communautarisme, l'interculturalisme, tout ça. Donc, je pourrais y revenir tout à l'heure dans notre discussion. Merci.
Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, professeur Terrier.
Ouais. Je suis très content d'être ici. Je suis un peu moins docile que Jocelyn, donc je n'ai pas vraiment fait une préparation qui réponde directement aux trois questions. Je voulais faire une réflexion plus générale au fait sur les legs de l'Holocauste, hein, sur les legs de l'Holocauste, sur le langage courant. Mais je pense qu'à travers ça, je répondrai aux questions et j'y reviendrai dans la discussion par la suite. Je dois dire au départ que j'ai hésité à venir vous entretenir ce soir de la mémoire de l'Holocauste. J'ai hésité parce que je ne suis pas un spécialiste de l'Holocauste et de sa mémoire. Tant d'autres que moi ont des choses probablement plus précises à dire sur ça parce qu'ils s'y sont fait une spécialité. J'ai hésité aussi parce que je considère comme Québécois ou encore comme Québécois d'origine acadienne, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, je ne pense pas que l'Holocauste soit un élément essentiel de notre identité. Cela est vrai d'ailleurs de l'ensemble de la question juive. Hein, elle n'est pas partie intégrante de notre mémoire. Hein. Certes, nous avons partagé dans notre histoire les préjugés historiques du monde chrétien vis-à-vis les Juifs. Nos grands leaders nationalistes, on leur a reproché beaucoup, je pense à Grou, mais aussi à Lorondo, et d'autres ont émis des propos antisémites. Mais l'antisémitisme n'était pas le cœur de leur argumentation. Leurs œuvres ne furent pas antisémites, dans le sens que l'antisémitisme n'était pas le fil conducteur expliquant leur démarche. Ils furent antisémites par convenance, beaucoup plus que par conviction. C'est l'anglais qui est le bouc émissaire du récit canadien-français, pas le juif. Cela est vrai aussi de la mémoire populaire. Il y eut dans notre culture populaire des propos anti-juifs, mais ils n'étaient pas un objet central de nos sarcasmes. La peur de l'anglais y était beaucoup plus présente. Pour ne parler que de mon expérience personnelle, j'ai peu de souvenirs dans mon Acadie natale et rurale de propos anti-juifs. Et s'il y en avait, ils étaient largement couverts par les propos empathiques de mon père qui avait participé à la guerre et était revenu avec la conviction que les Juifs y avaient subi un tort immense. On avait d'autre part, nous Acadiens, une autre raison d'être empathiques aux Juifs. N'étions-nous pas un peuple aussi de la dispersion? Tout cela, pensais-je donc, me donne peu de compétences pour parler de l'Holocauste. Mais à bien y réfléchir, c'était faux. L'Holocauste est en quelque sorte la question juive, est devenue partie intégrante de la mémoire occidentale. Je dirais même de la mémoire universelle. Paul Ricoeur, dans Temps et récits, dira « Les victimes d'Auschwitz sont, par excellence, les délégués auprès de notre mémoire de toutes les victimes de l'histoire. » Le sociologue allemand Ulrich Beck rappelait pour sa part qu'il n'est pas insignifiant qu'un des plus grands musées, sinon le plus grand et le plus occupé peut-être commémoratif de l'Holocauste, se trouve à Washington. Le peuple américain n'est pas responsable de l'Holocauste. Le fait que l'on ait ainsi américanisé la conscience de l'Holocauste, poursuit-il, est la preuve de la détériorisation de cette mémoire, la détériorisation de la mémoire de l'Holocauste et la désidentification de la mémoire de l'Holocauste. Elle n'appartient plus exclusivement aux Juifs, elle n'appartient plus exclusivement au peuple d'Israël, elle n'appartient plus à l'Allemagne et à son passé douloureux, elle n'appartient plus à l'Europe du pogrom. Elle fait partie de cette nouvelle conscience cosmopolitique qui s'est développée au cours des 40 dernières années. Elle s'est donc universalisée. Elle est la mémoire, pour reprendre l'expression de Ricoeur, de toutes les victimes de l'histoire. J'ai perçu cette distance, d'ailleurs, entre une mémoire universelle et une mémoire singulière qui serait propre à quelqu'un de particulier. Il y a quelques années, lorsque je visitais la ville de Iași, au nord de la Roumanie. Iași était une ville, au début du 20e siècle, où florissait la culture juive. Il y avait là une vie intellectuelle et universitaire très, très intense, une vie universitaire et intellectuelle juive, je veux dire. Iași, c'est aussi la ville d'un pogrom, le train de la mort, qui fit en 1941 plus de 13 000 morts. On y comptait, avant la guerre, une cinquantaine de synagogues. Aujourd'hui, plus rien de cela, de cette gloire passée. Quelques centaines de Juifs y résident. Une petite synagogue tient lieu de mémoire, Pour y accéder, il faut faire venir un vieux rabbin qui a recueilli des photos dans des scrapbooks de l'histoire juive de la ville, dans une petite salle défraîchie à l'entrée de la synagogue. Le témoin caché d'une histoire singulière. Je voyais donc dans ce petit musée toute la distance entre le récit singulier qu'il nous racontait, celle de l'histoire de la communauté juive de Iași, et le faste du musée de l'Holocauste de Washington. Ma première réaction était de me désoler. Un si petit lieu pour une histoire aussi tragique. Mais finalement, cette distance montrait peut-être mieux que Washington l'ampleur de la catastrophe. C'était l'histoire des Juifs de Iași qu'il racontait, non celle cosmopolite du musée de Washington. Mais revenons à la mémoire de l'Holocauste, comme histoire universelle, des victimes de l'histoire. C'est à partir de cette mémoire que j'ai finalement accepté de vous parler ce soir. En effet, si je ne porte pas en moi comme Québécois ou Acadien une mémoire particulière de l'Holocauste, comme humain ou comme intellectuel occidental, je participe de cette consécration de l'Holocauste comme mémoire universelle. Je participe de cette mondialisation de la mémoire juive. J'ai donc à ce titre quelque chose à dire. Je dois du moins avoir quelque chose à dire. Qu'arrive-t-il en effet à un phénomène historique lorsqu'il est en quelque sorte retiré du groupe qui en était le porteur, les victimes, pour devenir un objet de la mémoire universelle? Je ne parlerai pas de l'effet sur l'identité juive proprement dit elle-même. Je n'en suis pas un spécialiste, mais je parlerai donc de l'effet qu'une telle universalisation de l'Holocauste a eu, pour employer l'expression, l'expression des organisateurs de cette rencontre, donc, a eu sur le langage courant, sur notre conscience universelle. Le premier effet est sans nul doute, et Jocelyn en a parlé tout à l'heure, l'accélération du déploiement des droits de l'homme à l'échelle planétaire. Les tribunaux de Nuremberg, ou le tribunal de Nuremberg, qui a introduit une conscience de la justice universelle qui n'a cessé de se déployer depuis lors. L'idée d'une justice au-delà des États, qui s'adresse à l'humanité, l'idée du crime contre l'humanité, ont été alors mis de l'avant. Les Allemands n'auraient pas commis un crime contre les Juifs, mais contre les humains. Et c'est devant le tribunal de l'humanité qu'ils devaient répondre. Par contre, la question... Donc, ce n'était pas un procès par les vainqueurs, ni celle par les Juifs. Le procès d'Henschmann à Jérusalem, par exemple, disait Hannah Arendt, était une erreur. C'était une erreur parce que l'État d'Israël aurait dû faire juger Eichmann par les Nations Unies ou par un organisme international. Lié étroitement à cela, donc lié étroitement à l'accélération du déploiement des droits de l'homme et à l'idée de crime contre l'humanité, on peut voir un autre effet des legs des legs de l'Holocauste, la délégitimation des projets nationaux. C'était une politique nationaliste allemande qui avait provoqué l'Holocauste. C'est la rivalité des nationalismes européens qui avait provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Après 1945, le nationalisme sera suspect, suspect d'être intolérant. C'est l'argument, par exemple, que Pierre-Éliott Trudeau évoquera contre le nationalisme québécois et en faveur de l'imposition d'une charte des droits de l'homme. Le nationalisme était, et je le cite, un crime contre l'histoire de l'humanité, a-t-il rappelé, à l'ONU suite à la victoire des souverainistes en 1976. Je rappelle que ces phénomènes ne sont pas dus à l'Holocauste en lui-même, et encore moins aux Juifs, c'est-à-dire l'accélération du déploiement des droits de l'homme, la question des crimes contre l'humanité, la délégitimation des États, ce ne sont pas dus à l'Holocauste, mais au fait que l'Holocauste soit devenu une conscience universelle, quelque chose qui est en dehors de la conscience de la victime et qui peut même être servi contre elle-même. N'impute-t-on pas toujours aujourd'hui à Israël d'être porteur d'un projet national et de crimes contre l'humanité que l'Holocauste a justement délégitimé? De façon générale, il y a consensus, du moins dans les sociétés démocratiques, sur le caractère émancipateur des effets de l'Holocauste, comme vient de l'évoquer Jocelyn d'ailleurs, sur la conscience universelle, sur l'accélération des droits humains, sur l'idée des crimes contre l'humanité. Non pas qu'il faille le mal pour créer le bien, mais ces éléments qui étaient déjà dans la conscience universelle des Lumières ont été régénérés, ont subi une impulsion particulière par le travail de mémoire de l'Holocauste. Mais il y a un côté moins consensuel à ce travail ou à cette universalisation de notre conscience à laquelle participe la mémoire de l'Holocauste. Plus on universalise un phénomène, plus on universalise une mémoire, plus elle devient abstraite. Plus elle est éloignée de considérations singulières, de considérations particulières, et je dirais de considérations politiques. Hannah Arendt, toujours elle, a déjà nommé « banalisation du mal », le processus auquel ont participé les nazis sur les populations juives. Elle entendait par là que l'expérience nazie avait été singulière dans l'histoire en raison de son caractère technique, mécanique. Eichmann était un homme ordinaire, disait-elle, qui répondait aux impératifs d'un système, non celle d'une intention magnifique ou d'une haine personnelle contre les Juifs. On pourrait dire la même chose de la mémoire, quand elle est universalisée, de la mémoire de l'Holocauste, à banaliser la mémoire, l'universalisation de la mémoire de l'Holocauste sert à banaliser celle-ci. Chacun, après coup, comprend que cette mémoire n'appartient pas lui exclusivement aux Juifs et veut entrer dans le cadre mémoriel de l'Holocauste. La mémoire de l'esclavage est devenue un Holocauste. Celle des victimes des camps de concentration communistes en URSS comme au Cambodge, l'extermination des Amérindiens, la colonisation européenne, l'esclavage des Noirs d'Afrique commis par les Arabes, le refus d'Israël de reconnaître la Palestine et, j'ajouterai pour ma petite histoire, la déportation des Acadiens. Non pas que ces phénomènes ne sont pas des choses terriblement condamnables, mais à trop vouloir élargir l'Holocauste, on perd sa singularité historique. Je lisais récemment qu'un groupe de Canadiens associés à Amnesty International exigeait du Canada l'arrestation de George Bush lors de son passage à Vancouver, de façon à le faire comparaître devant un tribunal de l'humanité. Non pas non plus que les Juifs sont porteurs d'une histoire incommensurable, mais plutôt la difficulté dorénavant à concevoir ces phénomènes comme des phénomènes politiques, à concevoir la difficulté à dorénavant concevoir le politique, parfois belliqueux, qui produit même des guerres et le mal absolu. Ce phénomène s'est étendu à toutes les questions des minorités, ce phénomène de banalisation, d'une certaine façon, de l'Holocauste. L'universalisation de l'Holocauste a participé à la prolifération de l'idée de la victimisation des minorités. Pour participer au panthéon de l'Holocauste, il faut être une victime, non un acteur. C'est ainsi que les minorités sont de plus en plus perçues comme des victimes identitaires et non comme des acteurs politiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des résistants que l'on célébrait au départ. Cela a pris du temps. Cela a attendu l'universalisation de l'Holocauste, son extraction d'une singularité historique juive pour que l'Holocauste devienne notre mémoire de toutes les victimes de l'histoire. L'universalisation de la mémoire de l'Holocauste a servi aussi à délégitimer les projets collectifs. J'ai déjà parlé comment le nationalisme, même israélien dans son sillage, est devenu suspect. Je voudrais simplement rappeler que la critique du nationalisme participe aussi d'une critique générale de la communauté politique, comme lieu de puissance et comme lieu de solidarité. Même chose, dira-t-on, pour la capacité de comprendre les groupes identitaires comme des groupes politiques. L'universalisation de l'Holocauste a idéalisé l'image de la diaspora, c'est-à-dire a perçu la diaspora comme l'archétype universel dorénavant de toute minorité. Dorénavant, seules les minorités floues, les minorités de l'errance, sans frontières, ont la cote. Là aussi, la diaspora juive y gagne, mais Israël y perd. Mais là aussi, il y a, avec l'universalisation, dépolitisation. Ce sont les minorités qui sont regroupées, qui ont une puissance politique, qui sont ainsi déclassées. Je terminerai en disant que je ne vous ai pas vraiment parlé de l'Holocauste ici, mais de la mémoire de l'Holocauste, de la mémoire réalisée à travers son universalisation, son extraction de la mémoire singulière juive. Si cet héritage nous a ouvert à une conscience universelle avec une dimension émancipatrice évidente, Jocelyn en a parlé et j'y abonde, elle nous a conduit aussi à une mise à distance de la singularité historique, ce qui a paradoxalement participé à la dépolitisation du monde. C'était pourtant pour des raisons politiques et par des gestes politiques que Hitler mit son projet en branle et que d'autres peuples s'y opposèrent. Merci.
Merci beaucoup. Joseph Yvon, merci beaucoup. Jocelyn McClure. Nos conférenciers sont d'une discipline très, très aiguë parce qu'ils ont vraiment rempli leur temps comme il faut. Avant de lancer les questions à l'auditoire, j'aimerais, si je peux, reprendre quelques thèmes que vous avez tous les deux soulevés, mais vous poser des questions. Bon, alors, prendre des thèmes que Joseph Yvon a soulevés, poser les questions à Jocelyn et vice-versa. Alors, Jocelyn, j'aimerais savoir votre réaction sur deux choses qui ont été soulevées par Joseph Yvon. La première, c'est cette question de comment l'universalisation de la mémoire de l'Holocauste a fait en sorte que, ou à travers le temps, a fait en sorte le phénomène politique, on arrive avec un phénomène politique où les minorités sont comme perçues et des fois s'auto-définies comme victimes, plutôt comme des acteurs. J'aimerais ça que vous pouvez peut-être répondre ou ajouter un commentaire là-dessus en le mettant plus large dans le contexte des questions minorité-majorité. Et aussi, si Jocelyn, vous pouvez aussi nous parler de comment cette mondialisation, de cette mémoire universelle a inspiré, selon vous, la gestion de la diversité depuis 1945?
Par rapport à la première question, donc au sujet de l'universalisation de la mémoire de l'Holocauste, je pense qu'il faut déjà faire une distinction entre l'universalisation des principes moraux, au fond, au cœur de la réaction par rapport à l'Holocauste et la mémoire historique de l'Holocauste elle-même. Mon propos, donc, s'adressait davantage au premier élément, donc l'universalisation du contenu moral, au fond, qui a fait en sorte qu'on a pu s'opposer à cette expérience historique, puis comment faire, donc, pour pas que ça se répète, par rapport à la mémoire historique, donc, puis à son espèce de diffusion. Je reconnais volontiers avec Joseph Yvon que la victimisation, se camper dans le rôle de la victime, donc peut être politiquement efficace comme stratégie politique. Donc effectivement, dans plusieurs cas, ça peut être efficace. C'est lié à certains des phénomènes dont je parlais tout à l'heure, où les positions adverses vont être délégitimées parce qu'on va les taxer justement de fascistes ou de nazisme et ainsi de suite. Donc je constate que c'est effectivement un phénomène politique avec lequel il faut composer. Mais je trouve ça très largement excessif de dire que tout ce qui relève maintenant de la politique de la reconnaissance des minorités, donc, relève de ce processus de victimisation. En fait, je pense qu'il faut aussi remarquer, puis ça c'est d'un point de vue sociologique, politique, là, que si aujourd'hui on parle autant des droits non seulement des individus, mais des minorités, c'est qu'il y a toute une série de minorités qui ont décidé donc d'en faire des revendications proprement politiques dans les années 60 et 70, que ce soit donc les peuples autochtones partout à travers le monde, que ce soit des nations minoritaires au sein d'ensembles plus vastes, parfois fédéraux, comme le Québec, comme la Catalogne, comme l'Écosse. Il y a eu des mouvements proprement politiques de contestation donc de l'ordre établi. On a cherché à montrer comment des politiques, des normes qui prétendent être soit universelles ou soit neutres, au fond, ne le sont pas parce qu'ils désavantagent, par exemple, les langues minoritaires, et ainsi de suite. Puis tout ça ne procède pas de la bonne volonté des États souverains, mais de mouvements de contestation qui ont été menés par différentes minorités, des minorités culturelles et religieuses, en même temps que d'autres types de minorités, ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux, et ainsi de suite. Donc, toute cette politique identitaire-là, c'est aussi un fait où les minorités se sont aussi campées dans le rôle de l'acteur, puis des acteurs, puis on est encore dans cette dynamique-là aujourd'hui. La deuxième question... Donc, il y avait trait à la mondialisation de la... c'est quoi les impacts sur la gestion de la diversité? Je pense que c'est ça, c'est qu'on est... on est encore, il y a comme deux mouvements parallèles dont j'ai parlé. Donc, il y a encore l'approfondissement de la culture des droits et libertés fondamentaux. Donc, entre autres, tout ce qui concerne le droit criminel international, le principe de la responsabilité de protéger. Donc, on est encore dans l'approfondissement de cette culture-là. Mais en parallèle, donc, il y a ce mouvement dont je viens de parler, d'une politique de la reconnaissance des groupes minoritaires. Je ne pense pas que ça soit issu de la mémoire de l'Holocauste. On a pu se servir de la mémoire de l'Holocauste pour disqualifier certains projets collectifs, mais ça n'a pas empêché tout ce mouvement donc, d'une politique identitaire où des groupes minoritaires ont cherché à démontrer comment des normes donc, étaient injustes, qu'elles cherchaient donc, à forcer leur assimilation et ainsi de suite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la gestion de la diversité, donc c'est tous ces mouvements de revendication, soit de droits collectifs ou de certains accommodements, et ainsi de suite, pour faire en sorte qu'on puisse s'intégrer sans avoir à s'assimiler complètement. Puis là, je ne pense pas qu'on soit dans l'héritage de la mémoire de l'Holocauste.
deux penseurs, des points de vue que qui se chauffent un petit peu. Je suis certaine que Joseph Yvon aura une réponse, mais tout d'abord, j'aimerais aussi poser deux questions à Joseph Yvon. D'abord, je veux reprendre un des thèmes que Jocelyn a soulevé sur la question de l'influence de l'Holocauste sur la langue courante et surtout sur les questions de peuple. Alors, je vous pose la question aussi parce que vous l'avez soulevé en parlant un peu de l'expérience acadienne. C'est quand on regarde l'histoire qui entoure le moment de l'Holocauste, on est confronté à un discours qui est largement, je veux dire, coloré par la question de territoire et de peuple. Alors, comment, et territoire imaginaire en même temps que réel, hein? Alors, comment dans vos cheminements, votre pensée là-dessus, on voit ces genres de thèmes qui reviennent dans le discours maintenant, depuis ce temps-là, de majorité-minorité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur la question de l'individualisme moral que Jocelyn a soulevé. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, individualisme moral par rapport à la moralité collective de la société. Et j'aimerais le ramener à une expérience beaucoup plus proche qu'on a eue. Bon, cet événement en Chine où on était confronté à la question d'une moralité qui n'est pas nécessairement pour tous, là. Donc, une moralité qui est assez concentrée sur la personne ou la famille ou le clan plutôt que notre responsabilité collective en société.
D'accord. Donc, je pense que les deux questions se rejoignent. Et, d'une part, sur la question, je pense qu'il faut distinguer entre les enjeux d'organisation autour de ce qu'on peut appeler les peuples, les minorités nationales, donc des peuples et des minorités nationales qui, ce que j'appelle, qui veulent faire société, qui veulent se construire un État-nation. Hein. Le Québec en est un exemple. Jocelyn, tout à l'heure, a parlé de la Catalogne, l'Écosse et d'autres. Je pense que ceci n'a pas grand-chose à faire avec la mémoire de l'Holocauste. C'est-à-dire que ce sont des revendications historiques qui précèdent largement, hein, qui font partie des grands idéaux de la construction des États-nations, etc. Et je dirais même que ça ne fait pas partie de l'histoire de l'Écosse, sinon à la négative. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure que l'Holocauste a délégitimé le nationalisme, a délégitimé la communauté politique territoriale, a délégitimé la construction des univers où les humains formaient un groupe d'êtres humains politiques pour faire société, pour avoir de l'influence politique, puis pour agir de façon solidaire entre eux. Donc, ce que je dis, c'est que l'Holocauste a participé à aviver fortement la notion de minorité, à légitimer la fonction de minorité, mais à délégitimer la fonction de majorité, mais la fonction de communauté politique, de communauté ensemble. Et ça touche, il me semble, la question de l'individualisme moral, hein, et de la solidarité. Il me semble que l'individualisme moral ou le libéralisme tel qu'il s'est pratiqué depuis les 50 dernières années, auquel a participé beaucoup l'universalisation de la mémoire de l'Holocauste, hein, est un individualisme qui pose peu la question de la solidarité, pose peu la question de comment les humains entre eux construisent des solidarités qui les dépassent. Hein. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en pensant que la mémoire de l'Holocauste, de la manière dont elle s'est faite en victimisant les minorités, en les dépolitisant, en a fait des catégories presque identitaires et que la solidarité joue entre eux quasiment comme quelque chose de naturel, de familial, et non plus comme quelque chose de politique, non plus quelque chose comme un débat avec la communauté d'ensemble dans lequel ils vivent. Donc, ça répond un peu à ça aussi, je pense, aux arguments de Jocelyn, là. Je ne dis pas, je suis d'accord avec lui, que si j'avais dit que tous les combats identitaires des 50 dernières années se sont de plus en plus faits sur le mode victimaire, je dis plutôt que il y a une tendance très forte et à définir les rapports identitaires comme des rapports qui ne sont pas politiques et qui sont de l'ordre d'un tort ou d'une victimisation, et que ça se rapporte plutôt au contexte des rapports majorité minorité, ça rapporte aux minorités et non pas pour y revenir à des groupes, à des combats de communautés politiques nationales.
Jocelyn, une petite réponse avant qu'on arrive à l'auditoire ou...
Peut-être deux commentaires. Ma vision... je reconnais les éléments de vérité de ce que Joseph Yvon a dit, mais en même temps, il me semble qu'il faille aussi ajouter donc des nuances. Lorsqu'on dit que l'Holocauste a délégitimé la notion même de communauté politique, je pense que c'est excessif. Je pense que, dans la moderne...
Je reviens encore, c'est la mémoire de l'Holocauste et l'universalisation de l'Holocauste, hein,
ouais.
Pas l'Holocauste comme ouais.
Ouais. Je pense que ça me semble excessif. En fait, dans la modernité politique, avant même donc l'Holocauste, il y a deux grands principes de légitimité politique qui cherchent à cohabiter, qui cohabitent de différentes façons selon les contextes. Un principe qui est lié donc à la souveraineté populaire, c'est le peuple qui est le détenteur ultime du pouvoir politique, qui est souverain. Et donc, d'un côté, de l'autre côté, un principe plus libéral qui dit que donc le citoyen, comme personne, a des droits fondamentaux qui ne sont pas dépendants de ce que la communauté politique veut bien lui attribuer. Puis je pense qu'il y a deux logiques là, qui sont distinctes, qu'il faut distinguer, mais pour qu'on vive dans des régimes légitimes aujourd'hui, on considère que ces deux principes-là doivent cohabiter d'une façon ou d'une autre, puis il peut y avoir des tensions entre les deux. Puis la mémoire de l'Holocauste, son universalisation, a renforcé le pôle libéral. Puis dans certains cas, effectivement, ça peut être au détriment, de façon excessive ou indue, par rapport au principe démocratique de la souveraineté populaire. Mais je ne pense pas que Joseph Yvon voudrait vivre dans une société qui serait strictement, dans une communauté politique strictement fondée sur la souveraineté populaire, un principe qui est parfaitement compatible avec donc, la tyrannie de la majorité. Donc, on a besoin d'un contrepoids libéral. Sur la question de la solidarité, une nuance aussi, parce que c'est vrai que l'individualisme moral peut mener à un individualisme excessif.
Il a mené dans les faits.
Ouais.
L'universalisation rime avec désaffiliation.
Oui, tout à fait. En protégeant, en assurant une certaine gamme de libertés individuelles, c'est certain qu'on donne des possibilités donc, aux individus de faire éclater des réseaux d'appartenance, de solidarité dans lesquels il était forcément inscrit avant. La question, c'est est-ce qu'on veut retourner là ou pas? Donc,
pense à l'État-providence, là.
Oui, mais donc sur le plan de la nuance que je vais apporter, c'est précisément là-dessus. L'individualisme moral, comme principe moral, mène pas nécessairement au fond, une désolidarisation. Je veux dire, il y a différentes gammes de philosophies politiques qui sont compatibles avec ce principe-là. C'est vrai que l'individualisme moral est compatible avec une position qu'on pourrait appeler libertarienne, où on veut vraiment gonfler à bloc les droits individuels, les droits de l'individu contre l'État, toute intervention de l'État est illégitime. Je veux dire, c'est possible, c'est compatible avec l'individualisme moral. Mais je dirais que la position dominante au sein de la pensée libérale et de la pratique des États, ça a été une pratique qui est nettement compatible avec l'État-providence, où on se dit, pour reconnaître véritablement les droits fondamentaux de l'individu, il faut assurer une égalité. Non seulement une égalité formelle, donc les mêmes droits et libertés, mais aussi une égalité des chances, une égalité des opportunités pour faire en sorte que chacun puisse avoir vraiment l'opportunité d'exercer ses droits et libertés, de se réaliser, de mener une bonne vie. Puis les philosophes libéraux les plus importants de la deuxième moitié du 20e siècle ont été des égalitaristes qui étaient assez fortement en faveur donc d'une justice distributive qui redistribue la richesse donc des plus aisés vers les moins bien nantis. Puis je pense au premier chef à John Rawls. Donc l'individualisme moral est parfaitement compatible avec une forme d'égalitarisme beaucoup plus robuste. Puis moi c'est ça ma tradition donc philosophique. Puis c'est compatible aussi avec l'individualisme moral.
Juste pour dire que je pense que tu as théoriquement raison, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as souligné, hein, que l'idée de la liberté des modernes ou l'idée de la démocratie moderne, hein, c'est l'idée de la souveraineté populaire, mais quand on se pose la question à qui est ce peuple à qui on a donné la souveraineté, la question se pose immédiatement puis elle se divise en deux, hein, c'est soit le peuple dans le peuple organisé politiquement, dans sa collectivité, ou soit le peuple comme individu. Et je pense bien que la réponse, si on veut être heureux, se trouve quelque part entre les deux, et jamais dans un bout du continuum. Ceci dit, je dirais que tu as théoriquement raison, mais que tu as historiquement tort, parce que depuis Rawls, l'universalisation de la mémoire de l'Holocauste et l'universalisation en général de la politique, de cette reconnaissance tout azimut, hein, ce qu'on voit dans nos sociétés, ce n'est pas le maintien de cette tension, mais une dislocation de cette tension entre la solidarité collective et la solidarité individuelle. Hein, dans les 25 dernières années, ont été particulièrement marquées, hein, par une tentative de valorisation absolue dans la pratique du côté libéral de la modernité et non pas de son côté collectif.
Ils vont continuer toute la nuit si je les laisse, c'est ça le problème. Alors je vais vous donner le mot de la fin.
Moi je réagirai.
Hein? Ah bon, alors,
je suis sage.
Hein, mais je vais l'ouvrir à l'auditoire. Je vois mon collègue Gregory Bond qui est là. Je suis certaine qu'il y aura une question percutante pour nous.
Je me permets un petit commentaire. Je ne savais pas du tout qu'on allait parler de l'Holocauste aujourd'hui ce soir. J'avais l'idée qu'on allait parler sur majorité ou minorité. Alors, je veux quand même faire deux petites remarques. Premièrement, l'effet de l'Holocauste qui n'était pas mentionné, qui a quand même certain effet politique, c'est que les religions ont changé depuis. Il y a une transformation de toutes les églises chrétiennes qui parlent autrement des juifs, qui respectent les juifs, qui travaillent ensemble. Il y a donc tout un mouvement donc mondial que les religions, donc les progressistes dans les religions se disent aujourd'hui notre mission c'est pas chercher à convertir les autres, mais c'est plutôt de travailler ensemble, coopération, s'engager pour la justice et pour la paix. Si vous allez sur la jeunesse, la paroisse Holy Family, vous regardez donc deux pancartes, respectez la religion de votre voisin. Moi, je crois que ça aurait été tout à fait impossible avant l'Holocauste d'avoir dans une église catholique cette pancarte respecter la religion de votre voisin. Première remarque. Et donc, il y a des conséquences politiques. Deuxième remarque. Moi, j'ai quand même, si je veux hésiter, je ne dirais pas que la mémoire de l'Holocauste est universelle. Nous avons des contacts avec des mouvements chrétiens en Amérique, en Afrique du Sud, en Indonésie, donc dans ce qu'on appelait le tiers-monde dans le passé. Et pour ces gens-là, l'Holocauste, c'est quelque chose d'occidental. Ils disent, voilà, ça nous révèle comme les Blancs sont comme ça. Alors, ils interprètent ça tout à fait différemment. Ils disent, voilà, on a maintenant, on a commencé à avoir plus peur des Blancs parce qu'on voit ce qu'il faut en faire en Europe. Et je dirais que ce qui n'a pas été nommé ici, l'Holocauste, ce n'est pas la seule dynamique donc dans l'histoire actuelle, c'est aussi la lutte contre la colonisation. Et donc l'anticolonialisme, c'est une dynamique qui est indépendante de l'Holocauste. Et je crois que c'est, vous dites aujourd'hui, il y a l'individualisme que oui, mais il y a aussi collectivisme parce que les colonies qui se battent contre les colonisateurs ont besoin de solidarité. Et donc, je crois qu'il y a là donc, une source de solidarité qui s'exprime même dans nos pays où des groupes comme le Québec et l'Écosse, donc, on a pris un peu de ce mouvement anticolonial. Et donc, c'est une source de solidarité, il me semble bien, une logique, une dynamique qui est indépendante de la mémoire de l'Holocauste.
Réaction, l'un ou l'autre, Jocelyne, ça va? Question, il faut venir à la...
Je réagirai après.
Oui?
Après quelques
OK.
Alors, moi, je suis... j'aurais voulu qu'on explique mieux les mots, c'est-à-dire ce que c'est qu'antisémite. Parce que là, j'ai l'impression que à partir de cette histoire de l'Holocauste, qu'on veut universaliser, puis je ne comprends pas justement cette universalisation dont vous parlez, mais qu'on se réapproprie les mots, et puis que, par exemple, antisémite, c'est juste pour les Juifs, alors que les Arabes sont aussi des sémites. Et puis, la mémoire. On a écrit, après la guerre, on a écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres. Continuellement, on parle de cette mémoire de l'Holocauste. Quelle est l'importance d'insister encore sur cette mémoire alors qu'on en a fait, on en a parlé tellement. Mais par contre, en parlant de ça, j'ai l'impression que on diminue l'importance des massacres qu'il y a partout à travers la planète. Quand vous dites que l'Holocauste, c'est pas la même chose qu'en Russie, c'est pas la même chose qu'en Chine, c'est pas la même chose qu'en Afrique, c'est quoi la différence? Vous parliez que vous avez... le peuple américain, lui, a choisi de se concentrer sur cette problématique de la mémoire et qu'ils ont érigé un musée là-bas. Mais il faut aussi dire que le peuple américain, il est souvent conduit par une forte majorité de juifs qui dictent la politique extérieure des États-Unis. Et ça a une importance là-dessus. Mais l'Holocauste, ce que je veux essayer de comprendre, c'est vraiment sa définition. Pourquoi la mémoire? Pourquoi cette mémoire? Encore une fois, le mot mémoire, il est devenu simplement lié à l'Holocauste. Alors que moi, je considère que la mémoire, il y a quelque chose de très grave dans la mémoire. C'est que la mémoire, elle est en train de se désagréger, pas simplement par rapport à au phénomène du concept de l'Holocauste, mais généralement. Puis de ça, il n'y a personne qui a l'air de s'en préoccuper. Puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.
Des questions. question sur la définition. Et on a une troisième question. C'est vous qui avez une question, madame? On va prendre les questions et ensuite on va demander à
nous. Oui, mais j'ai juste une réponse à dire. C'est qu'en France, un séminaire à l'École des hautes études, on discutait justement la différence des camps staliniennes et hitlériennes. C'était des survivants des deux camps qui ont discuté la différence entre un camp stalinienne et hitlérienne. C'est qu'on veut, on peut survivre un camp stalinienne, mais c'est très difficile à survivre un camp hitlérienne. Ce sont des camps où il y a des milliers de personnes. Et la vocation de ces camps, c'est la mort, c'est l'esclavage, c'est de tuer et c'est la génocide complète d'un peuple. Et c'est sûr que l'Holocauste juif, parce qu'effectivement, le mot antisémitisme n'est pas très exact. On peut dire anti-judaïsme ou anti-israélite en français. La vocation, c'est un génocide complète, total des personnes. Et on peut effectivement comparer ça à ce qui s'est passé aux Arméniens en Turquie, en Cambodge. En Chine, c'est difficile, c'est une autogénocide, alors c'est la destruction d'une classe. Mais effectivement, en fait, des comparaisons à ce qui s'est passé à Rwanda, c'est sûr que personne ne discute l'Holocauste juif d'une manière complètement close des autres instances dans l'histoire. Personne ne le discute, mais il faut peut-être visiter un de ces camps et discuter ce qui s'est déroulé avec un survivant pour savoir, en savoir l'importance de souvenir. Et le mot holocauste, c'est un mot utilisé dans les traductions de Bible pour les conflagrations, les destructions qui se déroulent. Et c'est 10 ans après la guerre qu'on commence à utiliser ce mot holocauste pour Shoah. Alors, c'est juste pour dire d'où vient l'utilisation de mots. Je ne sais pas si on l'utilise dans les traductions françaises. Alors, ma question, c'est, il y a juste 2 points. C'était sur Arendt. Arendt n'aime pas l'État d'Israël. C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'Israël traite. Elle veut critiquer les hypocrisies de l'État d'Israël parce qu'il y a des lois qui discriminent contre les mariages entre un juif et un non-juif. Il y a une sorte de deal fait entre Ben-Gurion et les travaillistes, une sorte de les peuples religieux, c'est que personne ne peut se critiquer après cette guerre. Personne n'est prêt pour ça. Il y a trop de personnes massacrées. Et c'est sûr, il y a des inconsistances dans les fondements de l'État d'Israël qui veut dire que l'État d'Israël n'a pas encore une constitution. Pourtant, il y a des principes très ouverts aux droits de l'homme et aux droits moraux dans sa déclaration de l'indépendance. Et je voudrais juste dire, par la lecture de beaucoup de documents qui sont ouverts à tout le monde sur le site web de l'État d'Israël, l'État d'Israël reconnaît finalement, toutes les parties, le droit au peuple palestinien d'un État, mais c'est juste qu'ils veulent négocier des frontières et tout le monde veut le même petit territoire. C'est très difficile. C'est vraiment dommage qu'il y a, dommage, c'est tragique, qu'il y a des guerres entre des Arabes et des Israéliens, tandis que le peuple juif a beaucoup mieux survécu dans des pays musulmans par beaucoup d'époques que sous l'égide des pays chrétiens. Une des grandes conséquences de Shoah, c'est le rapprochement des peuples chrétiens et du judaïsme. Alors ça, c'est peut-être une discussion théologique. Et je veux juste poser la question sur, c'était un monsieur, professeur Thériault, délégitimer la notion de la communauté politique. Non, c'est pas ça, c'est délégitimer la notion de la communauté politique construite sur la haine, la guerre à l'outrance. Le nazisme, c'est la guerre à l'outrance. C'est une philosophie politique qui ne peut pas aboutir que par sa propre défaite, parce qu'il provient, c'est la guerre à l'outrance. Il n'y a pas aucun summum ultime où on a la paix, sauf que c'est la nation Allemagne qui domine tout ou qui fait des traités, pas des traités de paix, les deals, on négocie des frontières avec d'autres peuples qu'ils acceptent. Alors, c'est très lié à ce que monsieur a dit sur la colonialisation, c'est que beaucoup de ces conséquences dans le droit individuel moral sont à la fois la défaite du nazisme et la défaite de la décolonisation qui ramène un est construit beaucoup sur l'autre. Mais les deux phénomènes se regroupent d'une certaine manière parce que la colonisation et le nazisme sont tous les deux construits sur la haine et la soumission de notre groupe de personnes. Sauf sous le nazisme, on va construire les camps et on va chercher à tuer tout le monde. Mais la raison pour laquelle, il me semble, il fallait peut-être avoir une historienne, je n'ai pas entendu justement la notion de la communauté politique organisée sous la haine. Et aussi, je n'ai pas entendu une discussion du nazisme, le traité de Versailles, la délégitimation de la nation allemande. Bon, je vais laisser à vous de dégager la question.
Il reste une autre question, mais est-ce qu'on va, on va prendre cette question aussi? Après ça, on va demander à nos interlocuteurs de faire un peu l'état de l'ensemble.
Oui, bonsoir. Ça sera d'abord une remarque, puisque bon, vous avez beaucoup parlé de l'Holocauste et des minorités. Tout de même, peut-être rappeler que l'Holocauste, c'est la destruction des Juifs d'Europe, comme bon, tout le monde le sait, mais c'est qu'il y avait donc l'impression... quand vous parliez beaucoup, qu'il y avait une sorte d'équation entre les Juifs et les minorités. Donc, on a peu parlé des Juifs. Je sais que donc, ce n'est pas peut-être le sujet central là, de la table ronde ce soir, mais il faudrait quand même peut-être distinguer les Juifs pour ne pas les ramener aux différentes minorités au Québec. Et la deuxième, peut-être la question que j'aurais ensuite, c'est par rapport à ce que vous avez dit, M. Thériault, l'Holocauste et la question juive ne font pas partie intégrante de notre mémoire. J'aimerais savoir de quelle mémoire on parle exactement. Est-ce que c'est la mémoire de la société québécoise? Puisque ça ne m'apparaît pas évident, d'autant que Montréal a été, il faut le rappeler, la troisième ville au monde où les Juifs ont immigré massivement après l'Holocauste.
Bon, alors, beaucoup de pain sur la planche. J'aimerais peut-être demander à Jocelyn de commencer et de reprendre les thèmes dans les questions qui vous semblent dans la mesure d'engager.
Oui, en fait, un thème sur lequel je peux revenir... Donc, c'est la question sur un peu sur l'unicité de l'Holocauste, puis entre autres par rapport aux autres massacres, aux autres injustices. Encore là, je vois pas ce qu'on gagnerait à généraliser l'utilisation du terme même Holocauste. Ça se réfère à une expérience historique donnée, précise, une expérience historique qui est constituée ni plus ni moins qu'un traumatisme moral pour l'Occident, pour l'humanité en général. Puis je pense qu'il faut chercher à la comprendre, à préserver cette mémoire-là. Je comprends ce que vous voulez dire lorsque vous dites qu'il y a peut-être une surenchère ou une profusion de ces discours rappelant le devoir de mémoire. Donc, je vois ce que vous dites là-dessus, mais ça, je pense que quand même, je ne vois pas ce qu'on gagne à chercher, donc à généraliser l'application de ce terme-là. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, ça ne revient pas à nier qu'il y a d'autres injustices, qu'il y a eu d'autres massacres. Au contraire, tout le sens de mon intervention vise à dire comment le contenu moral de la réaction face à l'Holocauste donc, peut être réapproprié donc, pour penser justement les autres injustices. Donc, je pense que c'est en termes des legs de l'Holocauste, il y en a un important de ce côté-là, si bien qu'on peut l'invoquer maintenant pour justement critiquer toutes sortes d'injustices, entre autres toutes les conséquences de l'islamophobie rampante à laquelle on assiste présentement dans nos sociétés. Je veux dire, c'est un des problèmes majeurs des sociétés donc d'immigration aujourd'hui. Puis je pense que si on a des ressources morales pour penser ce problème-là, puis critiquer certains discours, ben c'est pas sans lien avec le legs de l'Holocauste.
Je vais prendre une série de petites remarques. Là, je commencerai par la dernière. Je ne pense pas que ce soit la mémoire juive qui ne fait pas partie de notre mémoire collective. D'une part, elle ne fait pas partie, mais je reviendrai. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que l'antisémitisme ne faisait pas partie de notre mémoire. Ce que je veux dire par mémoire collective à ce moment-là, c'est le récit historiographique ou littéraire qu'on a fait sur le Québec en disant à l'intérieur de ça, l'antisémitisme apparaît, mais il n'est pas central dans ce récit-là. Si on faisait le même passage dans l'histoire des nationalismes européens au tournant du 19e et du 20e, on verrait que l'antisémitisme est quelque chose qui apparaît centralement dans le bouc émissaire à partir de lequel ils se perçoivent. Ce que je disais, c'est que ça n'apparaît pas central. À savoir que, Effectivement, je pense que ça, on n'en a pas parlé, mais ce n'était pas ici, que l'antisémitisme ne fait pas, et il ne devrait pas, c'est peut-être correct qu'il n'y ait pas, le fait que les Juifs sont ici depuis longtemps et que cette mémoire n'apparaît pas dans ces récits historiographiques, là, c'est peut-être un problème, mais c'est pas le problème que je soulevais. Je suis aussi sur la question de dire que l'Holocauste, c'est d'abord... Je pense qu'il faut bien s'entendre, c'est ce qu'on disait d'une certaine façon, mais on a pris le travail après coup, hein, en disant que l'Holocauste, c'est d'abord une expérience historique qui s'est produite, hein, en voulant exterminer les Juifs d'Europe. Hein. Ce que je disais, moi, c'est que après coup, il y a eu universalisation de cette problématique et qu'on a eu tendance à généraliser cette idée et à introduire dans notre pensée, dans nos legs, hein, une universalisation de l'Holocauste à toutes les victimes du monde et à en faire, comme disait Ricoeur, là, hein, la mémoire de toutes les victimes de notre histoire. Et je dirais, hein, je reviendrai, que ce n'est pas immédiatement, quand on nous dit tout à l'heure, on a écrit beaucoup de livres sur l'Holocauste après la guerre, je dirais que ce n'est pas immédiatement après la guerre qu'on a fait ça. Pendant les années 50-60, on a peu parlé véritablement de l'Holocauste. Hein. C'est, en Europe, on a parlé de la résistance. La tentative de génocide contre les Juifs a été perçue comme quelque chose qui était de même nature que les Juifs ont essayé que les Allemands ont essayé de faire à l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire, il y a eu un travail de mémoire qui s'est réalisé à partir des années 70-80. C'est-à-dire, c'est dans les 30 ou 40 dernières années qu'il y a eu cette universalisation là, de l'Holocauste. Et c'est pas, je veux dire, on pourrait être contre cette universalisation, mais moi, ce que je dis ici, c'est qu'elle est un fait historique. Elle est un fait dans le sens que les Nations Unies, les grandes chartes des droits humains, etc., se sont tous référés à la mémoire de l'Holocauste. La défense des droits des minorités se sont tous référés à cette mémoire. Et donc, on peut pas contester cette idée-là. On peut dire il aurait fallu, mais on peut pas dire que ça n'a pas existé. Et là, c'est-à-dire que cette mémoire, cette universalisation de la mémoire de l'Holocauste, il y a peut-être une bémol à faire, hein, c'est celle que M. Brand nous racontait, que quand je dis universalisation, c'est peut-être pas aussi vrai que ça. Il y a certainement une universalisation qui s'est produite dans le sens d'une proposition morale universelle qui a surgi de ça, mais est-ce qu'il y a eu une vraie universalisation? Le professeur Brand rappelait que certains gens du tiers-monde nous disent non, c'est une affaire de blanc, hein, c'est une affaire d'occidentaux, ça, l'Holocauste, puis mélangez-vous de vos affaires. Dans le procès Barbie en France, on a fait venir un avocat africain, hein, qui racontait tout à fait cela, hein, que c'était pas que cette question était une question somme toute banale, que c'était un effet de la guerre entre des puissances européennes et que le procès contre crime contre l'humanité qu'on introduisait à Barbie était hors d'ordre parce que c'était pas contre l'humanité, c'était contre les Français qu'il se battait et que dans la guerre il a fait ça. Donc il y a pas cette universalité. Mais je dirais quand même, malgré ce bémol, que aujourd'hui on peut quand même penser que le libéralisme moral ou le libéralisme démocratique a fait une avancée extraordinaire dans les 25 dernières années, que sur la place Tiananmen en Chine, qu'au printemps arabe, que partout à travers, qu'en Amérique latine, etc. Aujourd'hui, on parle à partir de ces principes-là, hein, de démocratie, de liberté, d'égalité, etc. Et que là, c'est pas une conséquence de la mémoire, c'est pas une conséquence exclusive de la mémoire de l'Holocauste, mais la mémoire de l'Holocauste a participé à cette généralisation. Petit mot sur, effectivement, c'est moi qui a parlé de l'antisémitisme. Je sais bien que c'est une faute de langage absolue si on se fie au dictionnaire, mais je pense que quand on parle au Québec, par exemple, quand on parle de l'antisémitisme historique, on n'avait jamais des propos anti-arabes. C'était des propos anti-juifs. On assimilait le sémitisme aux juifs et eux-mêmes parfois le faisaient. Oui, le reste, à Rennes, je suis d'accord avec vous, là, elle était un peu inconsistante. C'est-à-dire qu'elle percevait qu'il y avait des inconsistances dans la construction d'Israël par rapport à certains principes qu'eux-mêmes devaient défendre. Ça, je suis assez d'accord. Et l'idée que je ne suis pas certain qu'on puisse réserver l'Holocauste au phénomène, comme Jocelyn dirait, aux phénomènes qui se sont produits contre les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense que quand même que l'Holocauste, ce n'est pas, ça ne se réfère pas, du moins dans ma conception à moi, à n'importe quel phénomène terrible ou grave. Ça se réfère à une tentative systématique à partir d'une idéologie politique, de détruire un peuple en raison de ses origines, hein, et de détruire systématiquement, de la rayer de l'espace terrestre. Hein, je veux dire, il y avait cette proposition qui est une proposition qui, elle, n'a pas eu lieu dans beaucoup de phénomènes de déplacement de population ou de tuerie de population. Il n'y avait pas ce projet politique, hein, de rayer de l'univers un peuple en raison de ses origines. OK, oui, dans le monde nazi. Puis d'autre part, je dois dire qu'il y a eu aussi des génocides, mais des génocides qui n'ont pas été, qui n'avaient pas ce rapport aux politiques, hein, dans le sens que le problème des Indiens d'Amérique on n'était pas dans la rationalité moderne. Les gens ne sont pas venus ici en disant on veut extirper en raison de leur race. Ils ont dit ils nous dérangent, ces gens-là, on les tue. Mais je veux dire, c'est pas. On n'est pas dans la même logique de fonctionnement, on est dans un autre monde.
Le point sur lequel vous insistez, c'est que les Juifs ont une particularité qu'on appelle l'Holocauste.
Non, c'est les Allemands. Je veux dire les Allemands, c'est-à-dire l'histoire, les nazis, pas oui. Les Allemands. C'est-à-dire que les nazis ont introduit quelque chose qui apparaît assez original dans l'histoire de l'humanité, hein, c'est-à-dire une projection politique moderne de créer un homme nouveau en éliminant les parties du corps social qui ne lui plaisaient pas.
Voilà.
Et ça, c'est ça.
Et cette particularité-là...
Ça n'a rien à faire avec les Juifs, c'est vrai, vous le dites, il y avait d'autres. Il y avait les homosexuels, il y avait les
On va laisser le mot de la fin à Jocelyn. Est-ce que tu...
Non, mais pour ça, je veux dire, peut-être, c'est une note en bas de page, on peut utiliser le concept de génocide pour décrire d'autres événements historiques. Je veux dire, ça, ni moi, oui. Ni Joseph Yvon, nions ça.
Écoutez, je dois clôturer, si on veut, le débat. Mais je vais vous dire que c'est loin d'être le débat stérile, qu'on a vraiment, je pense, réussi le coup d'avoir une discussion et une réflexion à plusieurs voix, donc les voix de nos intervenants et votre voix à vous. Je veux remercier le Centre de nous avoir donné cette opportunité de se rassembler et de pouvoir réfléchir sur les questions des effets de l'Holocauste et les relations majorité-minorité. Je veux aussi féliciter le Centre d'avoir invité parmi nous deux grands penseurs du Québec, Joseph-Yvon Thériault de l'Université du Québec à Montréal et Jocelyn McClure de l'Université Laval, puisqu'on a vraiment ciblé deux hommes, deux personnes qui ont pu vraiment nous donner état de leur vaste expérience, mais aussi des idées qui sont vraiment fascinantes. Et je vous félicite aussi d'avoir fait un débat qui n'a pas vraiment eu besoin de modération. Merci beaucoup.